Europe 1.
Europe 1.
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, la course folle qui oppose chaque après-midi les plus vigoureux journalistes de notre rédaction. Course qui entre en cette mi-juin dans sa dernière ligne droite, sous l'œil attentif de l'expert course d'Europe 1, Thierry Léger.
Direction l'hippodrome de l'équipée sauvage, avec quelques-uns de nos meilleurs pur sang. En embuscade, je pointe dans mes jumelles la jolie jument Le Gall, dans un état resplendissant, bienveillante, et sur laquelle on peut toujours compter, alors que dans son sillage, il est quand même regrettable qu'Evaroc, de loin la meilleure pouliche du lot en classe pure, ait été déclarée non partante, son entraîneur m'ayant confié ce matin qu'elle n'était pas d'humeur à défendre sa position de grandissime favorite. Ici Thierry Léger, en direct de l'hippodrome de l'équipée sauvage. À vous Mathieu.
On a tous pété les plombs cette fin de saison pour arbitrer cette compétition rageuse au service de votre bonne humeur et de votre culture. J'ai la favorite non partante. Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Autant vous dire que je suis très très heureuse aujourd'hui.
Ma fière pouliche.
Mais oui.
Tout à l'heure vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on
Bien
zappe
sûr.
Ce soir à la télé. Mais d'abord accueillons notre invité d'honneur aujourd'hui. Je sais qu'Anne Le Gall ici présente l'adore. C'est un de ses artistes préférés,
oui.
Un chanteur à la fois talentueux et populaire.
Herbert Léonard.
Pas loin. Bonjour Louis Chédid.
Bonjour.
On a tous en tête et dans le cœur, comme disait l'autre, t'as beau pas être beau. Mais Louis Chédid en 2020, c'est ça.
Si j'avais su, que vous alliez à mon insu m'abandonner, je ne t'aurais jamais dit.
Alors, on va le dire d'emblée. Avec Eva, on a trouvé cet album sublime, tout ce qu'on veut dans la vie. C'est l'album qu'il faut écouter en ce moment, positif, empreint d'humanisme. On va en parler tout au long de l'émission. Comment allez-vous tout d'abord, Louis Chédid ?
Très bien.
Comment
très bien.
Se sont passés ces mois un petit peu bizarres qu'on a vécu ?
Écoutez, plutôt pas mal, parce que j'étais quand même à la campagne, loin de Paris. Et puis je me confine souvent, moi, parce que quand je compose, quand j'écris, je suis assez solitaire et je me balade dans la campagne et j'essaye de trouver des idées. Donc, la chose vraiment qui m'a manqué, c'est de ne pas pouvoir voir mes amis, de les voir que par visioconférence et tout ça, de ne pas pouvoir aller dans un resto, dîner avec eux, ou échanger, quoi. Mais échanger physiquement, mais sinon, ça a été. J'étais plutôt privilégié là-dessus.
Louis Chédid, on va parler de votre confinement, mais surtout de ce nouvel album qu'on attendait depuis 7 ans, même si entre-temps, vous avez fait plein de trucs, notamment avec votre brochette d'enfant talentueux. Mais d'abord, je dois vous présenter ma propre brochette d'enfant talentueux à moi. Alors, c'est un peu l'anti-famille Chédid, au sens où aucun, mais aucun d'entre eux, n'a de talent musical. Ni Anne Le Gall, notre expert environnement.
Eva, je kiffe l'humour comme toi.
Oui, bonjour Anne.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais j'avais tout donné ce jour-là.
Vous aviez pourtant tout donné, c'est ça qui est plus inquiétant encore. Ni Axel de Tarlé, notre expert éco. Mais dans son cas, c'est beaucoup plus gênant, car avant d'embrasser la carrière de journaliste, il avait tenté sa chance dans la musique avec un groupe intitulé Venin.
Oui.
Ce n'est que 30 ans plus tard, alors que je le confrontais à ses enregistrements de l'époque, qu'il a compris.
Petit terrien, tout allait bien, il ne nous manquait rien.
J'ai été lead singer dans un groupe de rock.
Petit chanteur.
En fait, j'ai compris pourquoi rapidement ils voulaient faire des musiques instrumentales.
Et oui, très vite, ils sont passés sur l'instrumental. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu. Tout est vrai dans ce que vous avez dit. Pour une fois, il n'y a pas de montage.
C'est terrible, tout est vrai. Alors aujourd'hui, Axel, puisque vous êtes devenu spécialiste économique d'Europe 1, ce qui vous va mieux, pas nous,
que lead singer dans un groupe de rock.
Vous êtes plus à votre place. Chacun doit trouver sa voix dans la vie. Voyez. Vous êtes spécialiste économique d'Europe 1. Aujourd'hui, vous nous parlez de la voiture électrique chinoise.
Et oui.
Elle arrive, elle est moins chère.
Elles arrivent. Pour la première fois cet été, on pourra en France, alors c'est Hertz qui lance ça, louer des voitures chinoises. Alors, je vais vous expliquer, mais ce qui est intéressant, c'est que le patron de Renault est terrorisé. Il dit, moi, dans le pneu, j'ai vu comment les Chinois ont raflé 30% du marché en 10 ans. Et il dit, ça risque de nous arriver dans la voiture, avec la voiture électrique.
Bah, peut-être tant mieux pour les gens qui ne peuvent pas s'acheter des voitures électriques américaines qui coûtent très
voilà,
cher.
Et c'est la fin de notre industrie automobile.
Bah, bravo, Mathieu Noël. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça, Axel ? Vous avez trouvé des solutions pour les gens
qui ressortent.
C'est ça, cœur de rocker. Face à vous, donc, Axel, la passionnariat écologiste d'Europe 1, la Greta Thunberg d'ici les Moulineaux, Anne Le Gall, avant l'été, les paparazzis épiaient les stars à Saint-Trope. Désormais, ils épient les loups dans le parc du Mercantour. C'est vraiment le monde d'après, là.
Voilà. Puisque Louis Chédid aime se balader dans la campagne, eh bien, nous allons profiter des grands espaces du parc du Mercantour où ces scientifiques jouent les paparazzi en espionnant les loups avec des caméras. Alors, est-ce que ça a marché? On vient de recevoir les premières images. Je vous dis tout ça dans un instant. Suspense.
Merci. Le programme est donné. L'équipe sauvage peut démarrer.
T'imagines, les types ont 10 ans, ils essayent de placer leurs caméras et les premières images. J'arrive, tu vois des marmottes.
Vous parlez sur le jingle, vous, maintenant.
Oui, pardon,
vous parlez sur le jingle du début d'émission,
le
tapis rouge pour Louis Chédid, vous parlez dessus.
Bah oui, je sais.
C'est-à-dire
je
qu'il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus de respect, voilà. Il n'y a plus rien.
Bien, il faut pas
Pourquoi
qu'il y ait
pas
des règles.
Voilà, ça tout explose.
Donc, avec Louis, c'est la liberté, donc on continue.
Effectivement, voilà. Louis Chédid qui nous accompagne cet après-midi pour nous présenter son nouvel album.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime.
Alors, l'album,
alors, cette chanson,
l'album est magnifique. Toutes les chansons sont belles, mais alors celle-ci, on sait tout de suite que c'est le single, au sens où elle reste. Vous l'écoutez une fois, c'est fini. Vous l'avez dans la tête toute la journée.
Oui, oui, non, mais tant mieux.
Mais alors, vous évoquez les embrassades.
Oui, c'était juste avant le confinement.
Voilà, on est d'accord. Hein.
Absolument. Mais en fait, c'est très bizarre parce que, effectivement, quand il y a eu le confinement, cette chanson commençait à passer pas mal partout. Et je me suis dit, oh là là, je vais me faire.
Elle
s'embrasse, oui, je sais pas. Et en fait, c'est le contraire, en fait. C'était une espèce de fantasme d'après-confinement qui. Pendant le confinement, qui servait un peu à beaucoup de gens à tenir le coup. Il n'y a pas que ça, mais disons que ça a contribué. Quoi.
Oui, très bel album, très belle pochette aussi, vous pouvez voir sur Europe1.fr. Il nous revient avec ce nouvel album intitulé « Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ?» Louis Chédid est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Est-ce que cet été, comme Eva, vous avez envie de voir le loup?
Ah ouais.
De vrais loups, Eva, de vrais loups. Dans le parc du Mercantour, oubliez le confinement, oxygénez vos poumons au cœur de la nature. 47 caméras sont actuellement installées pour espionner les loups. Anne Le Gall vous explique pourquoi, tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Il est la preuve qu'on peut faire carrière dans la musique sans être un requin. Sa douceur et sa gentillesse nous enchantent depuis 45 ans à l'occasion de la sortie de son nouvel album « Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ?» Louis Chédid est notre invité d'honneur cet après-midi. Hélas, Louis, si douceur et gentillesse ne sont pas rédhibitoires dans l'industrie du disque, elles le sont dans le monde impitoyable du journalisme. Anne Le Gall est en train de le découvrir à ses dépens alors que nous sommes entrés dans la dernière ligne droite du championnat européen des journalistes. Elle, qui fut longtemps leader du classement général, est en train de se faire doubler. En cause, son côté bonne poire. Anne est trop tendre. Même les techniciens en abusent quand elle se connecte en duplex de chez elle.
Allô, allô, je suis là, c'est Anne.
Elle est encore là, elle?
Oui, absolument.
Ouais, bah, rappelle dans un quart d'heure, parce que moi, faut que j'aille au cagouins.
Yes, super, merci beaucoup.
Il faut taper du poing sur la table, Anne, que diable, enfin. Aujourd'hui, vous avez votre destin entre vos mains. Pour l'emporter, un sujet sur les loups du parc du Mercantour. C'est audacieux.
C'est audacieux, c'est une opération de télé-réalité avec une quarantaine de caméras qui ont été installées à la fin de cet hiver sur 200 km² dans la réserve naturelle du Mercantour. Donc le but, c'est d'espionner le quotidien d'une meute de loups. Et c'est une première scientifique dont on attend beaucoup parce que même si dans les histoires pour enfants, des trois petits cochons au chaperon rouge en passant par les dessins animés de Tex Avery, si dans ce cas-là, le loup est plutôt un personnage m'as-tu vu, arrogant, bavard, qui hurle à toute tête, eh bien, dans la vraie vie, le loup n'a pas du tout ce top.
Voilà. Vous avez essayé de mettre des sons, Anne. Très compliqué de mettre des sons, surtout quand les sons partent après votre effet. C'est vraiment un métier. Hein. Je vous invite à.
Mais on l'a entendu, le loup de Tex Avery, mais dans la vraie vie, le loup n'a pas du tout ce tempérament-là. C'est un animal discret, farouche, qu'on a du mal à apercevoir. L'hiver, c'est un petit peu plus simple de le suivre à la trace dans la neige, m'a expliqué le directeur adjoint du parc du Mercantour, Laurent Cheyère. Mais c'est à peine plus simple, car le loup sait semer ses poursuivants.
Le loup a la capacité de se déplacer dans les traces du loup qui est devant. Et donc, si on ne fait pas attention, on n'observe les traces que d'un loup. Mais si on suit cette trace assez longtemps, des fois, ils se séparent. Alors, on a une trace, deux traces, trois traces. Des fois, ils sont quatre ou cinq. Voilà. Et en dehors de cette capacité-là, à savoir la neige, on a très peu de possibilités de repérer la présence de loup. On a des crottes. On a des poils qui peuvent être accrochés dans des barbelés ou dans des branches avec des épines. Mais là, on ne l'observe pas de visu.
D'où le choix d'installer ces pièges photographiques, des caméras qui se déclenchent par phase de 30 secondes en présence d'un animal. Des centaines d'heures d'images ont ainsi été récupérées il y a quelques jours.
Et on voit bien des loups sur les images ou c'est flou, comme je le disais tout à l'heure, de manière un peu perturbée?
Eh bien, c'est pas flou, mais il y a des loups. Il y a bien des loups qui ont été filmés, mais pas seulement des loups. D'ailleurs, il y a aussi des renards, des cerfs, des chevreuils, des belettes. Les chercheurs de l'université de Nice sont en train de faire le tri parmi les images en utilisant en ce moment notamment un système de reconnaissance faciale pour animaux.
Bah, c'est-à-dire qu'entre une belette et un loup, ah non, on devrait faire la différence, non? S'il leur faut...
Ils vont tenter de demander à de l'intelligence artificielle de remplir cette mission. Ça aussi, c'est une première. Et les chercheurs espèrent en savoir plus à la fois sur les habitudes de déplacement des loups, mais aussi sur des solutions pour limiter les attaques sur les troupeaux. Plus de 3700 attaques ont été recensées l'année dernière.
Il y a combien de loups en France? Ah, on le sait, ça, on a le chiffre?
Oui, aujourd'hui, l'Agence pour la biodiversité, on recense 580. Et le loup est réapparu naturellement en France au début des années 90. Et c'est une espèce animale très importante pour l'écosystème parce que c'est un super prédateur. C'est un animal qui régule les populations de cerfs, de chevreuils, de sangliers. Et comme il s'attaque aux animaux malades et aux plus faibles, en fait, il consolide leur espèce. Et c'est pour ça que son rôle est essentiel. Et c'est pour ça qu'il est protégé, notamment.
Alors, merci beaucoup, Anne Le Gall. Axel, je crois que vous avez bien aimé la chronique, surtout le début.
Après, ça a été un peu chiant.
Non, pas du tout. Louis Chédid, vous pouvez commencer à évaluer nos chroniqueurs sur la base de leurs prestations journalistiques, bien sûr, mais aussi, si vous le souhaitez, en évaluant d'autres qualités qu'ils pourraient avoir. Axel de Tarlé, par exemple, mise beaucoup sur l'activité de service, comme il nous l'a prouvé hier avec la comédienne Camille Chamou.
Tu revends un café, tu nous dis. Hein.
Je peux aller t'en chercher un, Camille, hein. Tu sais, c'est ma spécialité. Hein. Un thé, peut-être.
On se retrouve avec Louis Chédid.
Un café, Louis Chédid. J'y vais tout de suite.
Avec plaisir.
Allez, j'y vais.
Merci. Un petit point gagné, déjà. On se retrouve avec Louis Chédid juste après. Tiens, justement, tout ce qu'on veut dans la vie.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est une de nos plus grandes joies du déconfinement, pouvoir à nouveau recevoir des artistes en studio, ce qui est quand même beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus fluide à l'antenne que lorsqu'on cherchait à les joindre au téléphone. Certains jours, fallait vraiment s'armer de patience, comme avec Alain Souchon.
Allô, allô? Est-ce qu'Alain Souchon nous entend? Ah oui. Ah,
Alain, vous êtes là?
Est-ce que vous
Alain
nous
Souchon,
entendez?
Est-ce que vous êtes avec nous?
Il doit pas être loin, la ligne est ouverte.
Mais
non,
oui, la ligne est ouverte, ouais.
Ouais, mais il est peut-être allé chercher un verre d'eau.
On entend du bruit. Est-ce que vous nous entendez, Alain Souchon? On entend du bruit derrière. Hein. Allô? Ah, il nous a raccroché au nez.
On avait fini par l'avoir, Alain.
On a réussi,
et c'était un bon moment. Aujourd'hui, on est content d'être en studio avec Louis Chédid pour fêter son nouvel album sorti depuis quelques mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Un album qui fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, parce que beaucoup de bien,
ça
n'a vraiment aucun sens. Il est très frais, très positif, comme vous, Louis, cet album. Et pourtant, il y a un truc qui vous saoule, c'est quand on vous dit qu'avec 45 ans de chansons derrière vous, vous êtes installé, qu'il ne peut plus rien vous arriver, que vous n'avez plus rien à prouver. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui doute. Il y a la chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, que j'adore d'ailleurs.
Ah, oui,
et
oui.
J'ai l'impression que c'est ça un peu le secret et le lien de tous les artistes, les grands artistes qu'on reçoit. C'est-à-dire que c'est des gens qui, malgré le succès, malgré les années, continuent de douter.
Mais évidemment, de toute façon, le nouveau disque, c'est toujours le disque qui peut être le disque de plus, de trop. Et donc la barre est très très haute quand vous avez fait beaucoup de disques. Les gens jugent aussi par rapport aux tubes qu'ils connaissent, des chansons qu'ils connaissent, etc. Ils se disent, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que... Voilà. Et il y a des chances, souvent, que ce soit moins bien. Donc, nous, dans notre esprit, quand on... Moi, tout ce qui s'est passé avant, je trouve ça formidable et ça fait partie... Je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu plein de morceaux comme ça qui ont plu aux gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire le nouveau disque qui du Saras, comme on dit.
Vous avez déclaré, avant la sortie de l'album, je me demandais à quelle sauce j'allais me faire manger si, du fait de mon certain âge, je n'allais pas être mis de côté. Je n'étais pas sûr d'être encore consommable.
Ouais, exactement.
C'est une phrase qui nous fait rire avec Ella quand on entend
bien
l'album.
Bien sûr.
En plus, c'est très gay.
Bien sûr, oui. Évidemment qu'on se pose la question, parce que vous savez, il y a le côté jeunisme aussi dans ce métier, c'est normal, et je le comprends. Les chanteurs, en général, ils sont pas faits pour être septuagénaires. Hein. Je veux dire, en général, les chanteurs, c'est 20 ans, 30 ans, 40. Bon. Et nous, on a vraiment passé ces barrières-là. Mais c'est simplement que je crois que c'est ce qu'on fait qui fait la différence. C'est-à-dire, c'est les chansons. C'est-à-dire, vous parlez de tout ce qu'on veut dans la vie, ça vous plaît. ça vous parle tout de suite, etc. C'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire que c'est d'arriver tout d'un coup. Alors, il y a une part de travail, évidemment, parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas arriver à faire une chanson comme ça, enfin, ou d'autres. Mais il y a une part aussi de, d'être là au bon moment, de sortir un disque right time, right place. Je ne sais pas quoi, vraiment. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais, parce que je n'aime pas du tout.
C'est chic. Non,
c'est pas chic du tout. Je trouve ça horrible. Mais je ne sais pas, je me suis lâché là. Et je me suis complètement abandonné. Mais, je déteste. Alors, ça, c'est un truc que je déteste. C'est tous ces mots, bashing, machin, truc. On a une langue absolument incroyable. C'est une des plus belles langues au monde, la langue française. Et alors, j'entends que des trucs en anglais. Je ne suis même plus. C'est quoi les trucs
On ne sait même plus quel est le mot français.
Confinement, on a gardé le mot français.
Mais il y a eu des clusters aussi, on a eu pas mal de clusters.
Ah, on a beaucoup de clusters.
On a bouffé des clusters. Ouais.
Je ne sais même pas ce que c'est, moi.
Un foyer.
C'est un foyer, un foyer épidémique, un cluster.
Alors, il y a un très beau mot qui s'appelle foyer.
Voilà.
Utilisons-le. His new album, What Do We Want In Life, is disponible. Louis Chédid passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous trouvez les voitures électriques françaises et américaines trop chères, Eva. La solution arrive, la voiture électrique chinoise. Que vaut-elle? Et surtout, pourquoi va-t-elle d'abord arriver en Corse? Axel de Tarlet vous explique, et Dieu sait qu'Axel de Tarlet a un lien privilégié avec la Chine.
On va faire la promo de mes bouquins, moi, justement. Comment perdre 739 € par seconde? Il a été traduit en chinois, figure-toi.
Et c'est traduit comment? Le titre, ça change ou pas?
Ah bah c'est du chinois.
Vous êtes bien renseigné sur vos propres livres.
Ouais. N'empêche, je suis très fier d'avoir l'un de mes livres traduit en chinois.
Combien
je crois que c'est moi qui les ai tous achetés.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Se dégourdir les zygomatiques sans pour autant éteindre nos cerveaux. Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 et sous l'égide d'un invité d'honneur aujourd'hui, Louis Chédid. On en parlait un petit peu hors antenne de cette famille Chédid, incroyable famille où tout le monde est talentueux. Est-ce que quand même, parfois, il y a des ratés dans les disques que vous faites ou dans les chansons? Est-ce que parfois Mathieu vous appelle, vous fait écouter un truc et vous lui dites « Non, ça, j'aime pas ». Ou alors, il y a toujours une osmose et vous devez, tout est toujours fantastique. Tout ce qui sort des Chédid est-il fabuleux?
Non, mais on se fait écouter, et les uns et les autres, les maquettes. Non, vraiment, au début, moi, je fais toujours écouter mes maquettes. Mathieu aussi me fait écouter ses maquettes, etc. On se donne notre avis. Alors, évidemment, on n'est pas d'une objectivité absolue parce qu'on s'aime beaucoup. Et donc, ça, tu vois... Ça conditionne d'une certaine manière, mais on peut pas se dire ah non j'aime pas ou c'est difficile, et puis c'est difficile de dire même à quelqu'un qu'on connaît pas quand il vous fait écouter quelque chose de dire d'être péremptoire et d'être définitif, parce qu'on sait jamais. Moi il y a des trucs que j'aime pas du tout que j'entends à la radio
qui cartonne.
Et qui cartonnent, et voilà. Mais enfin on se donne notre avis, on s'aide, on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et voilà, on échange, on est des musiciens en fait, avant tout. Enfin, avant tout, non pas avant tout. Je sais pas, je dis que des conneries.
C'est l'émission, vous inquiétez pas, ça détend sur les invités.
Ça détend. L'équipe est sauvage, je fais partie de cette équipe est sauvage. Et donc, mais en tout cas, oui, non mais ça joue le...
En tout cas, vous êtes vous faites écouter en premier à vos enfants vos maquettes.
Ouais,
et inversement.
Exactement.
Vous vivez, si on a bien compris, à la campagne.
Enfin, je vis entre la campagne et Paris.
Et alors, entre la campagne et Paris, vous utilisez une voiture ou pas? Ou plutôt train? Vous êtes voiture.
Ah non, ben, par exemple, là, je suis arrivé en voiture.
Et une voiture électrique?
Absolument.
Absolument pas. J'en ai dit absolument pas.
Grâce à Axel de Tarlet, qui m'en a procuré une. Hein.
Voilà. Moi, je suis de toutes les corruptions.
Et justement.
Déjà, il m'a offert un café. Voilà.
C'est la voiture électrique, ça va me coûter quand même.
Face à vous, Louis, un homme qui doit rebondir. Car des revers, il en a connu dans cette émission. Mais hier, alors qu'il était opposé à Anissé Mbida, notre expert innovation, Axel de Tarlet a carrément assisté, impuissant, à la naissance en direct d'une complicité entre Anissé et l'invité, la comédienne Camille Chamou, complicité qui confinait à l'idylle.
Putain, si j'ai encore un enfant, je l'appellerai Anissé. Ah, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper mignon, je savais pas que ça existait vraiment. Je crois
ils sont déjà en train de vouloir avoir un nouvel enfant tous les deux, sans que je suis mal barré pour gagner.
Et effectivement,
et vous avez perdu.
La défaite est attendue une fois de plus au tournant. Aujourd'hui, Axel, c'est donc avec les voitures électriques chinoises que vous allez tenter de renouer avec le succès.
Exactement, alors, puisque pour la première fois, il y a des voitures électriques chinoises qui débarquent en France. Alors, elles débarquent par la Corse. Vous savez pourquoi par la Corse?
Parce que c'est plus près? Non.
Non, c'est en France.
Mais non!
Non!
Non, mais l'idée...
géographiquement.
Ah, non, non, c'est pas pour ça. C'est parce que la Corse se prête particulièrement à la voiture électrique, parce qu'en Corse, on fait rarement plus de 300 km dans la même journée. Et donc, on n'a pas à recharger
pas
les batteries.
Il ne fait pas froid non plus, ce qui est un
voilà,
inconvénient.
Et donc, on n'a pas à recharger les batteries. Mais donc, voilà, ce sont des voitures de la marque Eways. Vous voyez, je fais un peu de pub pour ce nouvel arrivant automobile. Et c'est la grande crainte. Vous savez qu'il y a déjà des voitures électriques chinoises en vente, mais c'est un peu sournois parce que les Chinois ont racheté des marques automobiles. Ils ont racheté Volvo, je ne sais pas si vous le savez. Ils ont racheté aussi la marque MG. MG, pourtant, ça veut dire Maurice Garage à l'origine.
Oui. C'est pas vrai.
C'est une marque anglaise.
Mais
c'est
anglais. Maurice est devenu... MG, ça veut dire Maurice Garage.
Voilà.
Ah, Maurice, mais pas Maurice non, voilà. Chevalier.
Ah oui.
C'est pas vrai. Il est fort.
Ah oui, parce que j'étais en train de le dire.
M-O-2-R-I-S. De toute façon, peu importe, maintenant c'est Ching Chang parce que c'est chinois.
Ah ouais. Attention,
et donc,
vous êtes...
Maurice MG propose déjà des voitures électriques. Voilà.
Ah bon,
et tout ça pour dire que c'est ce que dit le patron de Renault. Il dit, moi, quand j'étais chez Michelin, parce qu'avant il dirigeait Michelin, j'ai vu en 10-15 ans les Asiatiques, les Chinois rafler un tiers du marché du pneu. Et il dit, ça va nous arriver dans l'automobile. C'est sa grande crainte. Et avec, alors, des gens disent, oui, mais on achètera toujours des Peugeot, des Renault. Enfin, il y a quand même la force de la marque. Pas si sûr, parce que comme c'est une technologie complètement différente, on peut avoir envie de nouvelles marques. Il peut y avoir un côté tableur. Regardez dans la musique, quand on était petit, le son, quand c'était des vinyles, j'allais dire des phonogrammes,
quand
les grandes marques,
petit,
c'était Marantz, c'était
faire,
Sony, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est Apple, c'est Bose, etc. Et même dans l'automobile, aujourd'hui, la première marque valorisée en bourse, c'est Tesla. Donc vous voyez, il y a de nouvelles marques Tesla est devenu le premier constructeur automobile
donc,
en bourse.
Tout pourrait basculer
donc,
en faveur
tout pourrait
des Chinois.
Basculer, d'autant qu'il y a une autre complexité pour nos constructeurs, c'est qu'il faut qu'ils passent de la technologie thermique à la technologie électrique. Et vous savez, c'est jamais facile de changer. C'est l'histoire de Kodak, qui était très bon dans l'argentique et qui, du coup, est allé à reculons dans le numérique. Résultat, il s'est fait piquer la place par les petits nouveaux. Alors, je sais... Vous allez me dire, il faut faire table rase du passé et abandonner notre voiture thermique pour passer à l'électrique. Mais quand même, j'ai du mal à me résoudre à cette idée que, comme disait un célèbre artiste, tout passe, tout casse, tout lasse,
oh là là,
tout
là
s'efface.
Il est fort, il est très
fort. 4 points,
c'est-à-dire un plus qu'on a d'habitude de l'inviter, c'est la décision de Louis Chédid. Mais Axel, il y a un truc qui manque dans votre chronique.
Combien
depuis
ça coûte,
le début, je pensais à la chute, pour
oui,
que ça arrive bien.
Le problème, Axel, c'est que vous travaillez trop la chute et vous oubliez en chemin des choses importantes, qui est le prix de cette voiture.
Mais oui, combien ça coûte?
Est-ce qu'elle va avoir un avantage comparatif?
Vous voulez en plus que je fasse le concessionnaire automobile des fabricants chinois qui vont couler notre industrie automobile? Eh bien non, monsieur.
Eh bien, ce n'est pas... C'est du travail bâclé. Voilà ce que je vous dis, moi.
C'est alors, le Cyrano de voilà, la voiture.
Ce n'est pas bien.
Vous êtes dingue.
Ah, la chute. Hein.
Non, mais il n'y a pas que la chute. Tout est bien.
Je vais gagner.
Vous connaissiez d'avant, vous deux, là.
Non,
c'est
pas
possible.
Pas du tout,
bon, il y a Anguille Souros, là. Merci, Axel de Tarlet. Anne Le Gall, d'un strict point de vue journalistique, comment avez-vous trouvé la chronique d'Axel?
Ça fait mal. C'était gênant.
Oh, oh là là. Voilà, vous pouvez être odieuse quand vous voulez, Anne. C'est très bien.
Europe 1.
C'est toujours fou de constater à quel point la haine peut transformer une personne. Prenons Eva Rock, par exemple. En temps normal, voilà une femme raffinée, élégante, d'une courtoisie exemplaire. Et à l'instant, vous lui parlez du quiz de Culture G, toujours conçu par nos équipes pour la ridiculiser face à l'invité. Elle change du tout au tout en s'écriant comme Booba en garde à vue.
Arrêtez, bande de bâtards que vous êtes, quoi.
Inutile d'être grossière, Eva. Vous n'échapperez pas au quiz. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, votre cocktail info bonne humeur de l'après-midi. Et aujourd'hui dans le studio Coluche, c'est la rencontre de deux géants de la pop française. D'un côté, Louis Chédid, 45 ans de carrière, des belles chansons dont beaucoup de tubes. De l'autre, Axel de Tarlet, 3 ans de groupe de rock amateur à se prendre pour Bob Dylan. Car oui, Louis, le lead singer de Venin, a également tenté de chanter en anglais.
Donc j'avais fait une chanson en anglais.
C'est vrai.
Et donc j'avais quand même un vocabulaire de quatrième, donc j'ai pris mon petit dictionnaire et c'était l'histoire d'une ville qui prenait feu. Je cherche sur mon petit dictionnaire, pompier, et je recopie mal. Je me trompe, au lieu de recopier à pompier, je recopie à pommier. So the apple trees, a are coming here, but it's too late, the fire is free. On aurait dit du Dylan, mais c'était une erreur de traduction.
C'est vrai. Même si nos auditeurs ont certainement très envie d'en savoir plus sur votre carrière Excel, vous comprenez qu'on va plutôt parler de Louis Chédid cet après-midi. Je pense que ça intéresse plus nos auditeurs. On est fan avec Eva de ce nouvel album, Tout ce qu'on veut dans la vie, un album vraiment positif, idéal pour aborder l'été et chasser de notre tête cette période compliquée du confinement. Un confinement très actif pour vous, Louis Chédid, puisque non seulement vous avez chanté sur les réseaux sociaux, mais vous avez aussi appelé vos fans à reprendre vos chansons.
Oui, absolument.
Comment vous avez l'idée? Vous en a envoyé spontanément, vous êtes dit on va...
Absolument. C'est-à-dire que je me suis dit je vais essayer ça et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais en recevoir 5, 6 covers.
On appelle des covers. Ah oui, ça y est, anglicisme.
Louis Chédid, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais je ne sais pas. Ça va être l'ambiance générale. Je sais pas. Et Europe One, je ne sais pas.
Des reprises.
Des reprises. Et en fait, j'en ai reçu plus de 100. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup de vues.
Est-ce que vous êtes toujours surpris par la façon dont le public se réapproprie et s'approprie vos chansons?
Oui. Toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on est des passeurs d'émotions. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Il y a émotions qui peuvent donner envie de s'émouvoir, de pleurer, de danser, de chanter, d'être heureux. Et quand ça touche, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'en fait... Une chanson, ça se construit vraiment chez soi, confiné, on est devant son clavier ou sa guitare et on essaie de trouver des mots et tout ça. Et c'est très excitant, parfois très déprimant parce qu'on ne trouve rien. Des fois, c'est exaltant parce qu'on trouve la phrase qu'on attendait depuis des semaines. Et puis tout d'un coup, ça s'en va et ça se répand et les gens l'écoutent. Et quand on sent effectivement qu'il y a du répondant et que ce que vous avez sorti de vous touche les autres, ça c'est une récompense inouïe.
Alors comme vous êtes bien chaud tous les deux, je vous propose de passer comme ça, sans fioriture, au quiz.
Et c'est quoi votre quiz?
Eh bien, évidemment, comme Louis Chédid, j'aimerais citer les paroles de la chanson qui a donné le titre à votre album. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. On va évidemment parler d'amour. C'est un quiz sur l'amour. Louis Chédid... L'expression « tenir la chandelle » vient du XVIe siècle. La chandelle était un objet en bois dont la forme rappelait une chandelle, mais qui était un objet de plaisir solitaire. Ah. Quand on la tenait justement, on était malheureux en amour. Ce que je viens de vous dire, est-il vrai ou est-ce faux?
C'est à moi de répondre?
Oui, c'est à vous.
Je pense que c'est tout à fait faux.
Oui, c'est tout à fait faux. Effectivement, il n'est pas tombé dans le panneau. L'expression vient des valets qui restaient dans la chambre la nuit en tenant une chandelle pour donner de la lumière pendant que les seigneurs faisaient leur petite affaire. Mais ils se retournaient. Pudeur oblige, ils tenaient la chandelle. Et baroque. Dans le couple Anaconda, c'est toujours la femelle qui chasse. Cette dernière offre d'ailleurs la nourriture au mâle pour que ce dernier s'accouple avec elle. Vrai ou faux?
Oui, vrai, enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais vrai.
Mais alors, jamais vous ne prenez le temps de la réflexion.
Il n'y a pas de réflexion à avoir, je ne les connais pas, les anacondas, je vis avec eux, donc elle fait ce qu'elle veut, cette dame anaconda, avec ce monsieur anaconda.
Et
donc,
bien,
vrai.
En tout cas, c'est parfait, puisque c'est une mauvaise réponse, c'est faux. Généralement, la femelle anaconda bouffe le mâle anaconda, comme elle sait qu'elle ne pourra pas chasser pendant 7 mois, le temps de la grossesse est une façon pour elle d'avoir suffisamment de réserves. La nature est parfois bien faite. Eva Rock, Louis Chédid, vous répondez tous les deux. Qu'a avoué pendant le confinement le tennisman français Benoît Paire? Qu'avant un match très important, il dormait avec sa raquette? Qu'il avait déjà fait l'amour une heure avant un match? Ou que quand il crie en tapant dans la balle, ça fait exactement le même bruit que quand il fait l'amour?
Moi, je dirais la 2. Il fait l'amour une heure avant le match.
Une heure avant le match, c'est en tout cas ce que vous conseillez aux sportifs
non,
qui
nous
écoutent.
Non, il ne faut surtout pas le faire. Mais
qu'il dort avec sa raquette, moi.
Il dort avec sa raquette, c'était plus mignon, mais c'était la mauvaise réponse. Bonne réponse, Eva.
Effectivement,
il a déjà fait l'amour une heure avant le match, une confidence qu'il a faite aux joueurs de tennis suisse.
Et ce qu'il ne faut pas faire en vrai. Non, mais vraiment, les sportifs, on leur demande
c'est
pas.
Vrai.
Mais bien sûr, les footballeurs n'ont pas le droit de voir leur compagne un jour avant le match.
Ah bon?
Mais pour quelle raison physiologique?
En termes d'énergie? Ben, ça vous épuise, les garçons, et je suis désolée de vous le dire, mais voilà.
Ça dépend de la position. Ouais. N'épiloguons pas sur ce sujet qui pourrait nous emmener assez loin. Louis Chédid, un ou une érotomane, c'est une personne qui se sent capable de faire l'amour avec n'importe qui, une personne qui pense que vous l'aimez, ou une personne qui ne peut pas faire l'amour sans écouter du Eros Ramazzotti.
N'importe quoi.
C'est une maladie.
Voilà, c'est trop facile.
Oui, c'est facile.
Trop facile.
La une.
Vous êtes sûr?
Ouais.
Une personne qui se sent capable de faire l'amour avec n'importe qui?
Non, la une.
Une personne qui pense que vous l'aimez?
Non, la une.
Je répète les choix. Un ou une érotomane? C'est une personne qui se sent capable de faire l'amour avec n'importe qui, c'est ça la une. Une personne qui pense, qui est persuadée que vous l'aimez. Ou trois, une personne qui ne peut pas faire l'amour sans écouter du Eros Ramazzotti.
Moi, je dirais la une.
C'est faux, Louis! Une personne érotomane, c'est une personne qui est persuadée que vous l'aimez. Plus précisément, puisque je vais apporter une meilleure définition que celle qui m'a été donnée là.
C'est une personne qui est persuadée,
qui fixe son désir sur quelqu'un, et qui est persuadée, je suis persuadée, par exemple, qu'Eva Rock est folle de moi, en fait. Et pas du tout, c'est une
vue. Mais je pense que vous en avez beaucoup dans vos fans.
Ah, peut-être que.
Non, mais sérieusement, pas mal de messages
en ce sens.
Vous voulez dire que je suis un. Ah oui, c'est pas
non.
moi.
Non, non, c'est pas
il suffit que vous regardiez quelqu'un dans le public et la personne capte votre regard et elle se dit, il m'a regardé, il a envie de moi.
Elle se dit, cette chanson, il l'a chantée pour moi, par exemple.
Ah, d'accord.
Voilà.
Écoutez, je vais regarder ça plus précisément.
Vous appelez vos fans.
Quand je vais remonter sur scène bientôt.
Eva Rock.
Oui.
C'est la dernière question. Attention, essayez de vous rattraper. Dans la série Les Feux de l'amour, comme il y a eu plus de 10 000 épisodes, les scénaristes ont commis quelques libertés par rapport à un personnage culte, Victor Newman.
Oui.
Alors écoutez bien. Il a eu 4 enfants alors qu'il avait subi 2 vasectomies. Il a trompé sa femme avec l'actrice qui jouait sa mère 4 saisons auparavant. Ou alors il n'a pas eu de maîtresse en 30 ans de présence dans la série.
Non, je crois que c'est l'histoire de la vasectomie.
L'histoire de la vasectomie,
oui.
C'est-à-dire?
Eh bien, il ne pouvait pas avoir d'enfant et il en a eu 4 finalement.
C'est une réponse qui vaut moins 2 points et c'est une bonne réponse.
Ouais.
Il a eu 4 enfants en subissant 2 vasectomies, une qui n'a pas marché et l'autre. Ah, les scénaristes sont quand même brillants. Son ex-femme avait gardé un échantillon de sperme. Ça, c'est bien joué. Hein. C'est très malin. Et c'est donc Louis Chédid qui remporte quand même le quiz puisque c'est toujours l'invité qui le remporte.
Voilà, il triche.
Tout à fait. La séquence qui suit, séquence média, est souvent l'occasion pour moi de pousser de gros coups de gueule bien virils.
Vous savez que la Ligue 1, les droits sportifs sont remis aux enchères, et Téléfoot a gagné, et ça va être 25 euros par mois pour voir la Ligue 1.
Pour voir Sochaux-Nancy, merci. Mais au-delà de l'intérêt intellectuel de mes remarques, c'est surtout l'occasion pour Eva Rock de nous faire part de ses coups de cœur, et le cas échéant, de ses petits coups de griffe. Les conseils écran d'Eva, c'est juste après une famille formidable. La famille Chédid réunie pour être plus fort sur Europe.
L'équipe est sauvage. Sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Louis Chédid est avec nous cet après-midi pour la sortie de son nouvel album « Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ?» Est-ce que vous l'avez su très vite ce que vous vouliez dans la vie, vous, Louis Chédid ?
Non.
Au début,
j'étais très timide, moi, j'étais très renfermé, j'étais très solitaire, j'étais un très mauvais élève, donc je complexais beaucoup là-dessus. Enfin, je vais faire pleurer. Et puis, le fait de faire ce métier et puis de commencer à avoir un peu de succès à un moment donné, ça m'a vraiment libéré complètement. Mais sinon, au départ, j'étais vraiment très, très introverti.
Bah, vous êtes toujours un petit peu timide puisque vous ne détectez pas encore les fans érotomanes qui sont pourtant, à mon avis, nombreux à vos concerts depuis toujours. Eva Rock, je crois que c'est à vous de nous parler des programmes télé du soir.
Oui, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le mot hikikomori?
Vous savez... On apprend beaucoup de mots aujourd'hui.
Mais c'était pas prévu. Hein,
c'est un mot...
C'est un mot japonais.
Voilà.
Hikikomori.
Bien joué, Louis.
Vous savez ce que ça veut dire, non?
Non.
Ça veut dire se cloîtrer en japonais. Ah, et en fait, les hikikomori,
ah oui, je me souviens.
Voilà. Ce sont des reclus. Ce sont des gens qui vivent le confinement, mais eux, depuis bien longtemps, des années pour certains. Alors, c'est un enfermement volontaire, souvent pour des jeunes gens, que les médecins, d'ailleurs, ont bien du mal à prendre en charge, parce qu'il s'agit vraiment d'une pathologie lourde. Et vous allez pouvoir le découvrir dans un documentaire qui est diffusé sur France 5 ce soir à 21h05. Alors, le documentaire est très noir, un peu étouffant parfois, mais il a vraiment le mérite de nous éclairer sur ce mal dont souffrent quand même des milliers de personnes, notamment en France. Et il y a des témoignages qui sont absolument bouleversants. Vous allez entendre Raphaël, notamment, qui a développé une phobie des autres, au point qu'il ne quitte plus sa chambre, au grand désespoir de ses parents. Il y a Aël qui vit dans une cabane de jardin depuis 14 ans et qui se méfie de tout. Les raisons de l'enfermement sont vraiment multiples. Hein. Ça peut être un harcèlement scolaire, ça peut être une agression sexuelle. Mais c'est difficile encore de comprendre comment ces gens restent aussi enfermés, aussi longtemps enfermés, et donc comment on peut les soigner, même s'il y a des solutions qui se profilent aujourd'hui pour ceux qui deviennent ce qu'on appelle des invisibles de notre société. Les hikikomori, c'est à découvrir sur France 5 à 21h05 ce soir.
Eh bien, merci pour ce précieux conseil, Eva Rock.
Europe 1.
Une première manche se termine dans l'équipe sauvage, la foire d'empoigne du journalisme contemporain. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre, mais seront-ils aussi irréprochables sur le plan de l'éthique qu'Axel de Tarlé ?
Lundi dernier, il y avait une formation corruption à Europe 1.
Non, anti-corruption.
Anti-corruption.
Oui, ça va être difficile d'être aussi incorruptible qu'Axel.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Je l'appelle ma muse, ma précieuse complice. Elle, plus mutine, me surnomme affectueusement
le blaireau.
Et Maroc et moi sommes ravis de vous inviter à passer une nouvelle heure en notre compagnie, à la lisière du journalisme et du divertissement, du sérieux et du rire. Et surtout aujourd'hui avec Louis Chédid qui nous présente son nouvel album, que j'ai là et que je vous montre si vous nous suivez en vidéo. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Moi, je veux des bons journalistes.
Tout ce qu'on veut dans la vie.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Qu'est-ce qu'on veut ?
Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Ça aurait été beaucoup moins bien, comme tu dis, tout ce qu'on veut dans la vie. Moi, je veux des bons journalistes. Ça tombe bien. De nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour arrivent. On va parler cinéma, gastronomie, séries télé. Et à l'approche de la fête des pères, on va interroger la notion de père chez nos cousins, les animaux. Bref, un programme éclectique au détour duquel vous découvrez peut-être également un de nos fameux potins de stars. Quand on oublie que les micros sont allumés et qu'on commence gentiment à bitcher sur une vedette, comme hier, durant une coupure pub.
Puis c'est bon, je pense qu'elle est tranquille. Entre elle et son mari, si tu veux.
Qui son mari ?
Ah ben non, il est peut-être mort d'ailleurs. Il était plus âgé qu'elle.
En tout cas, elle va toujours sans lui dans les dîners.
Bah, s'il est mort en même temps.
C'est pas de qui on parle, mais s'il est mort, effectivement.
Mais il n'est pas mort en même temps.
Voilà. Il n'est pas mort. Heureusement, c'est pas de qui on parle. Et heureusement, surtout, retentit la fameuse sonnette. Signe qu'il est 17h sur Europe 1.
Europe 1. 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Après une dure journée de travail, vous restituez à votre conjoint de bonne humeur et plus cultivé, c'est la mission de l'équipe est sauvage. Deux heures d'un féroce pugilat journalistique au service de votre culture G, présidé par un invité d'honneur. Aujourd'hui, un de ceux pour qui le confinement et les gestes barrières ont dû être le plus dur, vu qu'il chante.
Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face.
Oula.
Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche.
Ouïouïouï. Ça a dû être dur ces trois derniers mois, Louis Chédid.
Très dur. Très, très dur.
Votre nouvel album, Tout ce qu'on veut dans la vie, est disponible. On continue d'en parler, surtout de l'écouter. Juste le temps de vous présenter nos deux derniers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. La première pose une question essentielle à J-5 de l'événement qui va marquer le week-end. Je veux bien sûr parler de la fête des pères. Cette question, la voilà. Les bébés animaux doivent-ils eux aussi préparer des cendriers en rotin pour leur papa ? Bonjour, Farah Kessri.
Bonjour, bonjour. Là, j'ai une belle image de belle bouse pour, comme cadeau de fête des pères en guise de cendrier. Mais voilà, ça, c'est ce que vous m'avez inspiré là, tout de suite.
Je vous inspire une image de bouse. C'est de plus en plus flatteur, Farah. Il ne se passera vraiment jamais rien entre nous. Vous êtes, Farah, la vétérinaire officielle de l'équipe sauvage. Et aujourd'hui, vous vous penchez donc sur le rôle du père dans le règne animal. Les papas animaux ne sont pas que feignants et démissionnaires.
Non, pas du tout. Il y a vraiment tous les types de pères. Vous avez effectivement des papas un peu absents, surtout coureurs qui vont aller vite voir ailleurs. Hein. Dès qu'ils ont fécondé une femelle, hop, ils retournent voir une autre. Mais vous avez aussi des papas poules, des papas coucheurs et même des papas qui tombent enceintes, si je peux utiliser ce terme féminin pour un mâle.
Des papas tombent enceintes, oui.
Ouais, ouais.
Eh bien, écoutez, Farah, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a hâte de connaître cette énigme de la nature. Votre adversaire du jour, Farah, n'est pas un animal, mais une force de la nature. Sa femme pourrait en témoigner. Avec lui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Une nuit d'amour n'est jamais tout à fait terminée, car en cas de baisse de régime, il sait toujours trouver en lui les ressources pour relancer la machine.
Ça y est, ça va repartir.
Bonjour Mathieu Charrier.
Ça y est, ça va repartir.
Mes hommages à madame.
Est-ce que vous pouvez laisser ma femme en dehors de tout ça ? Mais on l'embrasse.
Que c'est possible.
Vous avez fait un lapsus.
J'ai fait un lapsus ?
Ouais.
Dites-nous, qu'est-ce qu'il a dit ?
Vous n'avez pas dit le mot baisse.
Ah, vous voulez dire que j'ai dit un mot un petit peu... J'ai fait ce qui s'appelle une Mathieu Charrier.
Oui, ouais.
Qui, quand il présentait les journaux, nous parlait toujours de la baisse du chômage. Le chômage est en baisse tout le temps pour lui. C'était vraiment la nouvelle du jour. Mathieu, vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1. Et cet après-midi, c'est un classement que vous nous proposez. Le classement des 10 films les plus diffusés depuis 10 ans,
ouais,
à la télé.
Et à votre avis, qui arrive en tête?
Moi, j'aurais dit La Grande Vadrouille.
Et ben voilà, tout le monde se trompe. On a tous en tête les films de Louis de Funès, La Grande Vadrouille, effectivement. Et ben,
les
pas
gendarmes
du tout.
À Saint-Tropez,
pas
tout ça.
Pas du tout, vous verrez que c'est pas eux qui sont multidiffusés. En fait, c'est le CNC qui a pris toutes les chaînes gratuites françaises et qui a fait un classement des films les plus diffusés. Vous verrez, on essaiera de faire un petit test.
La 7ème
compagnie. Eva, calmez-vous, nous saurons laisser le suspense. Le surprenant top 10 des films les plus diffusés en télé ou bien la paternité à géométrie variable de nos amis les animaux. Quel sujet préférez-vous ? Vous avez jusqu'à 18h pour voter via Twitter, comme d'habitude. Mais là, tout de suite, Eva, c'est l'heure du mix. Bah oh, oui, le mix n'est pas un très joli mot. Mélange.
Le mélange.
Le florilège mélangé.
Eh bien, vous m'avez enlevé ce mot-là. C'est un florilège, effectivement, des séquences trouvées sur le web ces dernières heures et mixées par Sébastien Bordenave. Alors, au programme, Ahmed Silla au sujet du Black Lives Matter, dont on va parler ensuite, et un extrait d'un reportage de 25 minutes sur les coulisses du premier Solidaise. C'est en 1999. On découvrait un tout jeune MC Solar, un très sexy Robbie Williams et Ligwan, Iggy Pop.
Salut, ça va? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ça se passe le festival? Vous vous sentez bien ici?
Ah putain ouais, cette cause est très importante. Et en plus, je n'aime pas l'idée d'exclusion, tu vois.
Et vous pensez que ça peut faire avancer les mentalités?
Ouais, bien sûr.
J'ai vu des personnes utiliser le casier judiciaire de certaines victimes de violences policières comme pour justifier leur triste sort. Sérieux. De un, on est en France et la peine de mort a été abolie. De deux, la police ne doit jamais devancer la justice. Et puis pardon, mais Monsieur Balkany, il a encore toutes ses dents et un joli sourire.
C'était Ahmed Silla, voilà. Et un reportage sur Solidaise.
Et on félicite Sébastien Bordenave.
Oui.
Pour
ce
qu'on va débaptiser le mix et qu'on va rappeler
le mélange.
Le mélange ou le florilège. Louis Chédid est avec nous pour son album Tout ce qu'on veut dans la vie. En 2022, Louis, vous allez fêter vos 50 ans de carrière. Vous dites, c'est extraordinaire, au moment de mon premier disque, jamais je ne me suis dit que 47 ans plus tard, je ferai encore le zigoto.
Oui, exactement.
Vous êtes surpris par la trajectoire de votre vie.
Complètement. Vous savez, quand j'ai démarré... avec d'autres, d'ailleurs, on se disait, si on arrive à tenir 3 albums, on sera content. C'est vrai.
Non, mais
c'est vrai.
Et oui.
Et en fait, on a fait... moi, je suis à 19e, 20e, je crois, je ne sais plus. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est absolument pas normal, presque, de traverser les décennies comme ça. Mais voilà, c'est comme ça.
Vous aimez la fête des pères, les films de Funès, les tomates aux fraises et les bébés pandas. Et même si, comme moi, vous ne voyez pas le lien, restez sur Europe 1. J'ai toujours cru que La Grande Vadrouille était le film qui avait été le plus diffusé à la télé. Eh bien, non.
Non, c'est... Oh.
Le gendarme de Saint-Tropez.
Non, vous, c'est...
Non. Mais alors, quels sont les films les plus diffusés à la télé depuis 10 ans? Et attention, surprise en vue.
Europe 1, 16h-18h, L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage s'ouvre à la poésie cet après-midi puisqu'on reçoit Louis Chédid, cet artiste qui a parfaitement cerné la psychologie des Varocs.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même.
Oh, ça pour prendre, je vous confirme. Elle prend quand même, même pour la nuit. On continue.
Non, mais vous. Ah,
oui, j'ai réussi à gâcher.
Mais c'est ça, quoi.
Il y a une super chanson, Aisy, d'un album pour faire une vanne sur Eva Rock. C'est vrai. Honte à moi.
Honte
à moi. On continue de parler de ce très bel album, Tout ce qu'on veut dans la vie. Mais l'heure est venue, Louis, d'écouter notre troisième concurrent du jour, l'inénarrable Mathieu Charrier, poète lui aussi à ses heures. Et comme tous les poètes, il aime jouer avec les mots, les détourner de leur sens originel, parfois à ses risques et périls, car la licence poétique a quand même des limites. La semaine dernière, il a découvert en direct que depuis toujours, il utilisait une expression vraiment à mauvais escient.
Vous allez avoir des films, vous allez avoir une offre. Ce qui est en revanche un ch'touille plus inquiétant.
Un ch'touille ou un ch'touille? Parce qu'une ch'touille, c'est une maladie que vous auriez contractée éventuellement dans une maison close.
Bon, moi, je dis un ch'touille.
Et lui, il dit un ch'touille. Oui, vous avez toujours dit, mais vous avez toujours eu faux en fait.
Un ch'touille en même temps. Ça vient de quoi, chouille?
Chouilla.
Un chouilla.
Ouais.
Donc, comme c'est déjà un diminutif, vous voyez, une réinterprétation.
Mais imaginez,
on peut réinterpréter.
Il est d'une mauvaise foi terrible.
Imaginez, vous tirez une balle dans le pied si vous dites un soir à votre femme: ah non, chérie, ce soir, je suis une ch'touille fatiguée. Elle va comprendre ce que vous faites pendant vos jours.
Allez, enchaînons.
Pour oublier cette légère déconvenue.
C'est moins douloureux en plus. C'est mieux.
Pour oublier cette légère déconvenue, mon cher Mathieu, je vous propose de lever le voile sur le classement surprenant des films les plus diffusés à la télé ces dernières années.
Parce que chaque année, le CNC fait un bilan annuel du cinéma et dans son dernier bilan, effectivement, il a fait un classement des 10 films les plus diffusés à la télé française sur les 10 dernières années. Alors, je précise juste que c'est sur toutes les chaînes gratuites de la télé française. Alors, on a déjà dit que ce n'était pas Louis de Funès. Monsieur Chédid, vous me disiez hors antenne?
Moi, je disais Les Bronzés.
Eh bien, pas du tout non plus.
Bah, c'est
non,
pas possible, c'est sans doute... passe tout le temps.
Oui, mais l'explication, c'est parce que... Non plus, c'est parce que ces films-là sont diffusés sur des grandes chaînes. Là, le CNC a vraiment pris toutes les chaînes.
Ouais,
et donc, le film qui arrive en première position, donc le film qui, ces 10 dernières années, a été le plus diffusé,
C'est ça.
Tiens-toi convenablement.
Je suis les traces d'un oiseau à trois pattes.
Et ne dis pas de sottises.
Quelqu'un reconnaît ? Mais j'en ai aucune idée, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
L'histoire de Kirikou et la sorcière.
Kirikou et la sorcière ?
Kirikou et la sorcière. Vous savez combien de fois ça a été diffusé ces 10 dernières années ?
Non.
43 fois. Ça veut dire que Kirikou passe entre 4 et 5 fois chaque année sur les chaînes gratuites françaises. Et quand vous prenez le top 10, en fait, vous avez 5 films d'animation. Quand on y réfléchit, c'est assez logique. Puisqu'il y a des chaînes à destination des enfants. Il y a aussi, vous savez, toutes les grandes chaînes nationales qui très régulièrement mettent des films d'animation. Donc c'est assez logique. D'ailleurs, je disais 5 films d'animation sur les 10 premiers. Et il y a un triplé pour monsieur.
Si ce sont vraiment des dieux, je m'inclinerai.
Astérix, ça aurait été un scoop. Ça, c'est les 12 travaux d'Astérix. Je l'ai vu 10 fois moi-même avec mon fils.
Triplé pour Astérix. Les 12 travaux étaient diffusés 30 fois ces 10 dernières années. Astérix chez les Bretons, 31 fois. Astérix et la surprise de César, 32 fois. Il y a donc beaucoup d'animation, je le disais. Mais il y a aussi, là, c'est assez logique qu'on parlait effectivement des bronzés, etc. Ils ne sont pas dans le top 10, mais c'est le même genre. Il y a aussi beaucoup de comédies, bien sûr, dans ce top 10. Alors, ça m'a plutôt surpris, je vais vous dire, je vais voir si vous reconnaissez ce film. Moi, j'avoue que j'avais un vague souvenir de l'avoir vu, mais il y a très longtemps. C'est le film le plus diffusé hors film d'animation, puisqu'il est en deuxième position juste derrière Kirikou. C'est avec le regretté Thierry Roland. Écoutez un extrait.
Nous vous proposons de vous retrouver dès le 19 juin dans vos salles de cinéma pour un film d'amour que nous nous ferons un plaisir de vous commenter.
Je peux avoir ce verdon ?
Est-ce que vous reconnaissez la dernière voix là ?
Merci.
Michel Blanc ?
Dominique Farrugia. Delphine
1, Yvan 0. C'est le film français hors animation le plus diffusé ces 10 dernières années à la télévision française, parce qu'il est sans doute pas cher, parce qu'il y a des chaînes de la TNT qui doivent avoir les droits et qui le multidiffusent. Il a été diffusé plus d'une quarantaine de fois. Vous savez l'histoire du film, parce que c'est quand même génial. C'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui commentent les déboires d'un couple.
Oui.
Et c'est la première réalisation de Dominique Farrugia qui donc a fait ce film, qui est le plus diffusé. Donc 4 films sur les 10 qui sont des comédies, et au milieu, un autre film. On va voir si vous reconnaissez la musique.
Ça, c'est un film sur Canal+, le premier du mois.
Vous ne reconnaissez pas l'ambiance de ce genre de musique si vous ne reconnaissez pas le film en lui-même ? Luc Besson.
Ah bon, c'est un Luc Besson, ça ?
Nikita.
C'est Nikita,
c'est Nikita. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu aussi la mélodie du Grand Bleu. Oui. Nikita, voilà, c'est le
les
seul film...
un peu vieilli, quand même. Hein,
c'est pas tout jeune, mais diffusé 33 fois ces 10 dernières années.
33 fois,
voilà,
Nikita.
Arrêtez de dire, on en a marre de voir Luc de Funès, on en a marre de voir les bronzés, on en a marre de voir le dîner de con. En fait, ce ne sont pas les films les plus diffusés à la télé française. Je dénonce aujourd'hui.
Ça m'a donné envie de revoir les bronzés, d'ailleurs, votre truc.
Ah bah d'accord.
Merci beaucoup, Mathieu Charry. Vous nous avez bien piégés.
Ah, vous avez vu un peu.
Europe 1.
À suivre, Louis Chédid, le moment que nos invités adorent, leur interview par Eva Rock. En termes de bienveillance, oui, c'est comme être interviewé par Michel Drucker, les questions pièges en moins. C'est vraiment tout confort. Une fois, peut-être, un invité n'avait pas aimé.
Mais je crois qu'il est décédé.
Voilà.
Mais non.
Eva Rock face à Louis Chédid, c'est juste après, justement, car tout ceci se tient. Louis Chédid, si j'avais su, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est le moment de l'émission où, par générosité, altruisme ou fainéantise, je passe la main à ma complice Eva Rock pour l'interview de notre invité. Normalement, Louis Chédid, vous pouvez être serein, ça se passe plutôt bien. Même si avec Eva, vous n'êtes jamais à l'abri d'une maladresse. Marianne James peut en témoigner.
J'ai perdu 5 kilos.
Mais non.
Victoire ou pas ?
Mais en faisant beaucoup d'efforts ou voilà, comme ça.
Toujours élégamment tourné.
C'était Marianne James. Mais oui, mais bon, écoutez,
Louis,
franchement.
Je vous laisse entre les mains plus ou moins.
Non, je vais être plus sérieuse, Louis. Louis, je vais être un peu plus sérieuse parce qu'en 1985, vous avez écrit une chanson qui va marquer votre répertoire, Anne, ma sœur Anne.
Ouais, ouais.
Une chanson pour dénoncer l'antisémitisme et le rejet de l'autre d'une façon plus générale.
Ouais.
Ma première question, c'est comment vous réagissez quand vous voyez le mouvement Black Lives Matter ou les manifestations en France de ces derniers jours ?
Moi, je trouve ça très positif. Je pense qu'il faut... c'est un combat de tous les jours, de combattre le racisme. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est un problème d'éducation aussi. Je veux dire, il y a tellement de gens qui... Malheureusement, d'enfants qui ne sont pas très bien éduqués à ce niveau-là, etc. Je veux dire, donc il faut, faut les stigmatiser là-dessus. C'est important. La race est une race humaine. Elle n'est pas de couleur, elle n'est pas de religion, elle n'est pas de... Une chanson dans l'album qui parle de ça, d'ailleurs, et qui est vraiment... qui dit, quelle que soit la couleur, la religion, on est tous pareils, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment... dans la tête depuis toujours. Et je pense que toutes ces manifestations, alors parfois ça peut paraître un peu excessif. Moi, ce qui me plaît pas, par contre, c'est cette espèce d'alali contre les policiers, parce que les policiers, quand ils ont fait le Bataclan, tout le monde les embrassait sur la bouche presque. Et puis maintenant, je déteste les généralisations, quoi. C'est-à-dire, on peut pas dire tous les policiers sont des racistes. C'est faux, c'est totalement faux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver. Mais c'est vrai, dans les mouvements populaires, il y a toujours des choses très belles et puis des excès aussi. Voilà,
et vous pensez qu'une œuvre artistique, c'est important dans ces débats-là? Je pense à votre chanson, évidemment, de 85, mais je pense aussi à la chanson de Pierre Perret, par exemple, Lily, ou encore Dupont-la-Joie, d'Yves Boisset, qui dénonçait déjà le racisme, le film d'Yves Boisset.
Tout à fait.
Quelle est la place de l'art dans ces moments-là? Vous pensez que c'est extrêmement important, que vous devez parler?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai fait Anne Masseran, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était important ou pas important. Pour moi, c'était important. C'est-à-dire que quand l'album a été terminé, il y avait Anne Masseran, il y avait une autre chanson qui s'appelait God Save the Swing, qui est une chanson beaucoup plus populaire, beaucoup plus entraînante, qui était très légère. Et évidemment, les maisons de disques m'ont dit « Oh là là, Anne Masseran, si tu sors ça, tu vas te planter, etc. » Mais moi, je ne me posais même pas la question. Je voulais sortir cette chanson en premier, parce que je savais que si je ne la sortais pas en premier single... premier extrait. Si je ne la sortais pas en premier extrait, elle passerait inaperçue. Et en fait, donc j'ai vraiment insisté, j'ai même quitté une maison de disques pour ça, pour pouvoir la sortir, cette chanson. Et finalement, bon, bah, cette chanson est devenue une de mes chansons les plus connues, je crois. Mais voilà, je ne me suis pas posé la question, j'avais juste envie d'en parler. Comme un citoyen qui parle, j'ai cette chance de pouvoir dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et je le dis. Voilà, c'est tout.
Écoutez vraiment son dernier album. J'entendais l'autre jour un journaliste mal informé qui appelait ça « Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ?» C'était vraiment détourné, un titre excellent. Hein, mais bossez un petit peu les mecs, bossez tout ce qu'on veut dans la vie. Le nouveau Louis Chédid est disponible, il passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
C'est chaque année un moment émouvant pour tous les papas. Quand votre fils de 7 ans vous tend le cadeau de la fête des pères qu'il a confectionné de ses petites mains potelées.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde!
Non, papa, c'est une cravate en carton multicolore pour que tu sois le plus beau quand tu vas au travail. Et ouais, y a pas que les mamans qui morflent, nous aussi. L'occasion pour notre veto Falakestri d'interroger la place et le rôle du père chez les animaux. Eux au moins, ils reçoivent pas des cravates en carton. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est un poète de la chanson française qui nous accompagne cet après-midi, un poète qui chante l'amour, mais qui pointe aussi du doigt les travers de notre époque.
Les yeux rivés sur nos smartphones et nos cerveaux dans le formol. Moitié robot, moitié homme. On n'entend ni ne voit plus personne.
Alors, il faut dire que c'est un album très gay. C'est l'album Feel Good de l'été. Mais il y a aussi quand même des chansons comme ça qui posent des questions. Est-ce que vous faites partie, vous, Louis, de ceux qui passent trop de temps les yeux rivés sur un écran, ou c'est une description plutôt de ce que vous voyez autour de vous?
Je fais partie de moi, je le... Mon iPhone, comme on dit, parce que là, on ne peut pas dire autre chose. Plus, et mon cellulaire. c'est un fil à la patte. C'est-à-dire que je l'ai vraiment, je regarde, j'ai tout là-dedans, enfin comme tout le monde, hein, mais c'est quelque chose qui me rappelle à son bon souvenir sans arrêt. Et il y a des fois où j'ai vraiment envie de m'en débarrasser, c'est une drogue. Et voilà, des fois je l'éteins complètement et je l'oublie, 5 minutes.
Non,
j'exagère, mais un peu plus longtemps que ça. Mais je raconte cette histoire, je me baladais au parc Montsouris il y a peu de temps. Il y a une allée qui s'appelle l'allée Jacques Higelin d'ailleurs, et les gens, il faisait très beau au parc Montsouris. Il y a un lac des cygnes et sur les bancs comme ça au bord du lac, il y avait plusieurs personnes, une dizaine de personnes qui étaient là. Et en fait, au lieu de regarder les cygnes, le lac, ils étaient là, ils regardaient leur smartphone. Si j'avais été assis, peut-être j'aurais fait pareil, parce que j'aurais peut-être reçu un texto. Et je me suis dit, oh là là, voilà.
Oui. Mais dans les concerts aussi, moi je me fais souvent la réflexion.
Ah, c'est horrible dans les concerts.
Voir les gens qui passent leur temps à filmer le concert, comme mais je vis le concert.
Oui. D'ailleurs, on peut demander aux gens, et d'ailleurs ils respectent, de ne pas le faire. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant des fois. Mais bon, après, c'est un outil extraordinaire à la fois. Hein. Je veux dire, moi, ça me relie à tellement de choses que... Et puis, dans la période de confinement, les FaceTime...
Oui, ça nous a un peu sauvés aussi.
Ça nous a sauvés.
Voilà. Alors, Louis, dimanche, c'est la fête des pères. Ouais. Nous, les pères lambda, on a un collier de nouilles, un cale-livre en pâte à sel ou une cravate en papier canson. En ce qui me concerne, vous, j'imagine que vous devez vous contenter d'une chanson de Mathieu Chédid ou d'Anna ou encore de Joseph. Pas de bol. Mais comment ça se passe chez les animaux? La fête des pères est-elle très fêtée? C'est la question très pertinente que j'ai posée à Farah Kesri, notre véto, qui m'a heureusement réorienté vers une autre question plus intéressante. Quel est le rôle du père dans le règne animal? Il se trouve, Farah, qu'il y a toutes sortes de pères en fonction des espèces.
Absolument. En tout cas, les super papas, vous risquez pas de les trouver chez les insectes ou chez les reptiles. Il n'y en a pas vraiment. Ce sont simplement des reproducteurs. En revanche, chez les oiseaux, il y en a quand même pas mal, surtout le flamant rose. Le mâle est totalement dévoué à sa progéniture. Il va couver l'œuf avec la femelle à tour de rôle, hein, des jours parité. Entiers sans même se nourrir. Et après l'éclosion, il va s'occuper du petit en le nourrissant grâce à son bec. Et c'est lui qui va aussi l'emmener à la crèche, puisque chez les flamants roses, les petits sont regroupés pour qu'ils soient bien protégés. Et vous avez vraiment des espèces de grandes crèches où il y a plein de mâles adultes qui vont les surveiller. Ce sont vraiment des papapoules. Et c'est le papa aussi qui va lui apprendre à voler de ses propres ailes.
Alors, les papapoules, c'est touchant, mais vous nous avez parlé tout à l'heure des papas accoucheurs.
Alors oui, là c'est un crapaud. Son nom scientifique, c'est Lalite obstétrique. Il est surnommé le crapaud accoucheur parce qu'il faut savoir que le mâle va se placer sur la femelle quand la femelle va vraiment mettre bas. Et pour accomplir donc sa fonction de futur papa, qu'est-ce qu'il va faire? En se plaçant sur le dos de la femelle, eh bien, il va s'agripper avec ses pattes avant et avec ses pattes arrière. Hein, vous voyez bien un peu les pattes arrière d'un crapaud, ça a quand même 5 petits doigts. Et bien avec ses doigts, il va aller récupérer les œufs qui sont à l'intérieur de la femelle, un à un. Il y en a entre 15 et 80 œufs.
Ah, c'est du boulot,
oui. Il va les féconder, puis il va devoir les porter sur son dos. Et comme la reproduction et la fécondation chez cette espèce se fait hors de l'eau, il va devoir les hydrater.
Comment?
Et il va les hydrater avec quoi? Et bien,
j'ai
tout
peur.
Simplement avec son urine.
Ah, parce merveilleuse
qu'il est
nature.
À distance d'une source d'eau. Donc, comme il est loin de l'eau, donc forcément, bah, c'est tout ce qu'il a, c'est son urine. Et il va devoir le faire pendant des semaines et des semaines pour jusqu'à l'éclosion de ses œufs.
Sympa d'être une
femelle
crapaud.
Donc, vous voyez, c'est un super papa quand même.
Ah oui, lui, c'est un super papa. Et chez les animaux, il y a même des mâles qui tombent enceint, si on peut dire. C'est le cas de l'hippocampe.
On dit enceint, mais c'est pas très joli. Donc ouais. Oui, c'est l'hippocampe. Et vous avez une trentaine d'espèces d'hippocampes. C'est toujours le mâle qui va être en gestation. Donc, il va faire sa grossesse. La gestation, c'est le terme pour les animaux. Il a une poche qu'on appelle la poche incubatrice, qui est vraiment située dans la partie ventrale de l'animal. Et à la saison des amours, c'est la femelle qui va aller rechercher un mâle. Elle va rechercher un mâle qui a une poche vide et les deux vont s'accrocher l'un à l'autre en nouant leur queue et la femelle va transférer ses œufs vers la poche du mâle. Le mâle, lui, va fertiliser les œufs à l'intérieur de cette poche et c'est lui qui va les couver. Il va rester seul. La femelle, en fait, elle a donné ses œufs et elle se barre pour refaire sa vie. Donc c'est quand même assez cool dans cette espèce. Hein. C'est vraiment l'inverse. Moi, j'ai pas du tout cette image dans l'espèce humaine, mais le mâle chez les hippocampes ne se fait pas vraiment avoir parce que, au moins, lui, il est sûr d'être le père et c'est pas toujours le cas chez les autres espèces animales.
Je sens qu'à travers cette chronique, vous avez réglé quelques problèmes personnels, peut-être au sein de votre couple, mais je vous remercie en tout cas.
Je pense beaucoup de maman.
C'était très intéressant, merci Farah Kesri. Et à l'issue de cette chronique, j'aurai une pensée émue pour mon papa à moi, qui n'est plus là, mais qui me disait toujours
« Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué !»
Il aurait été si fier de voir que je ne suis pas devenu clochard. Restez bien à l'écoute, car étourdi comme je vous connais, je suis sûr que vous allez vous pointer chez vous la mine enfarinée. Votre femme va vous demander si vous avez pensé à faire les courses pour ce soir, vous allez lui répondre non. Vous aurez l'air malin. Heureusement, Olivier Pouls, votre expert gastronomique, y a pensé, lui, à faire les courses. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Il y a des artistes qui font rêver, et puis il y a des familles d'artistes qui font rêver. les Chédides. Voilà une famille dans laquelle on aimerait tous être nés. Une famille où le talent se transmet de génération en génération, comme nous l'expliquait Louis.
J'ai toujours été frisé. Mon grand-père était frisé, mon père était frisé, mes enfants et mes petits-enfants oui. étaient frisés.
Oui, non, mais je parlais essentiellement du talent, Louis Chédide, le talent musical. Vous le prouvez encore avec ce nouvel album, Tout ce qu'on veut dans la vie. Et Eva, il est temps de parler de quelque chose de très important parce qu'on en a tous. On adore écouter oui. la musique, mais on a envie de voir les artistes sur scène.
Vous remontez sur scène. Ah, il voilà. y a déjà une. J'ai plein de dates sous les yeux.
Oui, oui.
La première, 25 septembre à Forges-les-Eaux. Voilà. Puis les, surtout les. Enfin, pas surtout, mais voilà. les Olympiades ouais. le 12 novembre et le 11 janvier 2021. Voilà. Donc ça y est, vous arrivez à vous projeter sur scène.
Eh bah, bien oui, parce que normalement, je devais. J'étais en pleine répétition juste avant le confinement et le 13 mars.
On tout a s'est arrêté.
Tout s'est, ouais. tout s'est arrêté, donc je me suis enfui dans le sud. Et, mais c'est vrai que c'était un coït interrompu, vraiment. Hein, ça, on peut appeler ça comme ça. Et bon, je rêve de remonter sur scène et à partir du 25 septembre, c'est bon. Et, enfin, normalement, parce oui. que j'espère que les gens ne seront plus obligés d'être à un siège les uns des autres. Parce que dans le TGV, je suis venu en TGV là. J'étais assis à côté d'un monsieur charmant d'ailleurs qui avait un masque comme moi. On a failli s'asphyxier. mais enfin bon, c'est utile. Mais c'est dans un petit wagon, donc j'imagine dans les salles de théâtre, ça devrait. Enfin, ce serait cohérent que ce soit pareil, qu'on puisse.
Et vous savez à quoi va ressembler le spectacle ?
Oui, parce qu'on avait répété quand même pendant 3 semaines, donc on était quasiment au bord de la première et. Ce qu'il y a de bien avec le confinement, j'ai pu réfléchir à pas mal de trucs nouveaux, changer des...
Ça va être encore mieux ouais. que prévu.
Bah ouais, je pense, j'espère.
Son dernier album, en tout cas, est un petit bijou. Tout ce qu'on veut dans la vie, Louis Chédide est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Hier soir, dans Le secret de sa cuisine, Eva Roque mettait en pratique les conseils culinaires de notre expert oui. Olivier Pouls. Le résultat, une crème cerise rhubarbe de fort belle allure qui allait infoler Instagram avec pas moins de 17 likes.
Oh la vache !
Au 18 à l'instant. Bravo Eva.
C'est
pouvez-vous
pas vrai.
Faire mieux aujourd'hui ? Olivier Pouls arrive avec une nouvelle recette hyper Instagrammable. Juste après, une chanteuse qui, je crois, vous paie beaucoup, Louis Chédide, Billie Eilish. Everything
ah
I
oui,
wanted sur Europe 1.
J'adore Billie Eilish.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quand l'hommage vire à la torture, c'est le risque que nous prenons à chaque fois qu'Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, croise la route d'un artiste qu'il aime et qu'il décide de lui présenter sa recette du jour en chanson. Akhenaton et Shuriken du groupe IAM en font encore des cauchemars.
Et je mange l'aïoli.
Quant à Oldelaf, qui avait poussé le masochisme jusqu'à l'accompagner à la guitare, il a dû entamer une psychanalyse pour surmonter le choc traumatique.
La tristitude, c'est quand ta bouteille de Pétrus est bouchonnée.
Bon, bref, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, bonjour Louis Chénide. Je ne vous ferai pas la peau de vous demander de m'accompagner à la guitare aujourd'hui.
Malheureusement, j'en ai pas.
Sinon, j'aurais fait
ça. Ça, c'est ballot. C'est vraiment trop
c'est
bête.
Dommage.
Peut-être Eva, t'es une flûte à bec.
Ah ouais, ouais.
Oh, ça serait du meilleur goût. Pour accompagner votre voix, je pense que la flûte à bec
oui.
est l'instrument qui se prête le mieux. Alors,
le
Olivier, on se moque de vous. Vous êtes un grand expert gastronomique.
Vous êtes énorme
et vous êtes vraiment bon. Hier soir, c'était très bon, apparemment. Eva a tenté la recette.
Oui, j'ai fait la recette que vous nous aviez proposée hier, qui est un croisement entre un clafoutis et une crème brûlée.
Que vous avez donc baptisé
une crème foutie.
Une crème foutie, je trouve ça pas mal.
Cerise rhubarbe, et c'était très bon.
Alors moi, je n'ai vu que les photos, je n'ai pas goûté. Non. Est-ce qu'au goût, c'était aussi beau que sur la photo ?
Mais excellent, et je me suis permise de rajouter un peu de vanille, cher ami, pour accompagner tout ça.
Donc la recette que je vais vous donner ce soir, vous allez la refaire ce soir et vous
Si vous
ne
mettez
demain.
Pas 3 tonnes de fromage, oui, allons-y.
Non, bah justement.
Je vous écoute.
Alors, vous m'aviez demandé une association un peu incongrue. On a dit qu'on faisait les fruits et légumes de saison. Donc là, on va associer un légume et un fruit. Encore que, d'un point de vue botanique, la tomate est considérée comme un fruit,
aussi, mais bon.
Même si nous, culinairement parlant, on la considère plutôt comme un légume. Et on va associer la tomate avec la fraise.
Ah oh, oui,
oh, c'est trop bon.
Ça, c'est bien.
Alors on va prendre une jolie tomate qu'on va évider et on va faire une tomate farcie aux fraises. Mmh. On va prendre des petites fraises qu'on va couper en petits morceaux, fraises françaises évidemment, hein, pas de la grosse fraise espagnole, je le répète à chaque fois, mais c'est bien que ça rentre.
Ne nous fâchez pas avec la fraise espagnole. Vous avez une manière de dire la grosse fraise espagnole.
Mais regardez sur les étals, les fraises espagnoles, elles sont géantes.
Oui, c'est vrai qu'elles
elles sont 4 fois plus grosses et elles ont 4 fois moins de goût. Alors, des bonnes fraises françaises coupées en petits morceaux, on y rajoute un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique.
Ah ouais.
Une herbe qui, je trouve, se marie très bien avec la fraise. Non, l'estragon.
Ah oui, l'estragon. Ah oui, ça c'est aussi.
L'estragon, ça marche extrêmement bien. Une très légère petite pointe de poivre. On mélange tout cela et on va farcir notre tomate. Et ce que l'on peut faire, c'est placer la tomate au four, mais dans un four très doux, parce qu'il ne s'agit pas de cuire, il s'agit, on va dire, en termes culinaires, on dirait de tiédir, de fatiguer presque un peu les fruits. Et donc, vous allez mettre cette tomate farcie dans un four à 100 degrés à peine, et vous allez la laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, vous me sortez ça, ma chère Eva, vous faites une photo.
Ok.
Vous me taguez,
d'accord.
Vous le postez sur Instagram, vous goûtez, vous me dites ce que vous en pensez.
Et Olivier, je précise à nos auditeurs qu'eux aussi peuvent réaliser votre recette. Pas
évidemment,
seulement Eva.
Mais vous aussi, Mathieu, vous, Louis, Chéri, tout le monde.
Mais oui.
Effectivement, recette que non, vous trouvez faire. Sur Allez. Le site d'Europe 1, si vous n'avez pas tout noté, mais ça m'a l'air assez simple. Même
c'est
moi,
très simple.
J'ai l'impression d'être capable
mais
de l'en
sauf faire. Que ça fait 2-3 fois qu'il nous donne des recettes, Olivier, sans les avoir testées. Donc après, il me demande de les tester.
Toi, tu l'as jamais testé.
Vous rigolez, je.
Vous l'avez déjà testé, ça.
Je suis professionnel.
D'accord.
Vous savez à qui vous parlez.
Hier, il
n'avait
pas testé.
Ah, bien sûr que non. Je vois qu'il ment comme il respire. Je vois bien qu'il est bientôt rouge comme une tomate, justement. Merci, Olivier Pouls. Votre
tomate,
recette.
Pas espagnole.
Et une tomate bien française, monsieur. Bravo. Votre recette est disponible sur le site Europe1.fr et on vous retrouve tous les samedis, Olivier, dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Qui sera élu chroniqueur du jour? Nous le saurons dans une poignée de secondes. Si vous entendez...
Super, merci beaucoup.
C'est que la modestie d'Anne Le Gall l'aura emporté. Si en revanche, vous entendez... C'est que la modestie aura perdu et que Charlie aura gagné. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Après 2 heures de promo menée tambour battant par une équipe aux petits soins avec son invité, c'est le moment pour cet invité de nous rendre la de la pièce en faisant mine de s'extasier au moment où je lui annonce que c'est lui qui va désigner le chroniqueur du jour comme Camille Chamou hier.
Mais non, mais c'est un énorme scoop. T'as heureusement que je suis venu.
Ben oui, Louis Chédid sera-t-il aussi bon acteur que Camille Chamou? Louis, c'est vous qui avez le destin de nos journalistes entre vos mains. Qui va l'emporter? C'est l'heure du qui tout double. Vous avez chacun 10 secondes pour convaincre Louis et nos auditeurs de voter pour vous. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous aujourd'hui et vos loups du Mercantour?
Eh bien déjà parce qu'avec cette chronique sur le Mercantour, on a pris un grand bol d'air. Et puis parce que les loups sont mythiques mais mystérieux. Et je trouve que cette curiosité scientifique qui pousse à installer des caméras pour mieux le comprendre, eh bien ça vaut des points. Tout simplement.
C'était un peu en berlificoté, mais pourquoi pas? Pas la caisserie, pourquoi voter pour vous et vos papas animaux?
Parce que je vais vous donner une matière à réflexion. C'est bien d'être un peu de temps en temps intelligent. Si tous les pères sont des mâles, tous les mâles ne sont pas des pères. On se donne bien du mal pour être de bons pères. Alors, bonne fête à mon papa.
Louis Chédid a dit pas mal. Mathieu Charrier a dit pom. Mathieu Charrier, justement, pourquoi voter pour vous?
Parce que je crois que j'ai réussi à vous surprendre. C'est l'essentiel dans la vie. Surprenons-nous.
Oui, voilà. C'est juste ça, votre
avec ça suffit, il n'y a pas besoin de.
Oui. Vous n'auriez pas pu être avocat. Hein.
Et les papas, les machins.
Quel le mépris pour les autres, c'est une carte à jouer. Pourquoi voter pour
Mathieu
vous
Charrier, c'est réglé. Non, moi je crois que c'était une chronique qui a su allier la défense de notre patrimoine industriel et de notre patrimoine culturel avec quelques références de l'excellente chanson française.
Est-ce que vous êtes allé vérifier combien coûtait cette voiture chinoise? Parce
oui,
on
nous
attend
l'a
toujours
dit.
L'info.
Oui,
mais
dit.
J'ai pas primé, je vais vous le dire, 30 000 euros.
Merci.
Hors bonus écologique. Je peux aussi faire le concessionnaire chinois. Si
oh, il vous a mouché. Il vous a bien mouché. Alors, Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Faut pas charrier.
Vous
êtes retombé d'un coup.
Puis celle-là, on l'a jamais faite en plus.
Eva, essayez de sauver un petit peu cette émission.
Je suis affligée.
Le choix de nos
deux auditeurs. Points pour Mathieu Charrier.
Eh oui, ben normal. Les auditeurs savent reconnaître
le public ne ment pas.
Voilà. Oui.
Moi, oui, je vote pour Axel de Tarlé.
Ah.
Oui, mais ici, de toute façon, on s'en fout de mon avis. C'est l'invité qui tranche avec ses 3 points. Louis Chédid, pour qui allez-vous voter cet après-midi?
En gros, l'idée, c'est de se faire crucifier par 3 personnes.
Exactement.
Non, mais moi, alors là, je vais vous dire, je suis pas The Voice, machin truc. The Voice. La voix et juger, non, je peux pas. Donc, je vote pour tout le monde.
Vous n'avez pas le droit. C'est contraire
au
principe de l'émission. Il vient de transgresser les règles de l'équipe sauvage.
Je transgresse. J'ai beaucoup apprécié cette émission.
C'est vrai, vous avez aimé? Ouais. Vous avez passé un bon moment?
Ah ouais.
Ah ben, c'est l'essentiel.
Maman.
Alors, tout le monde a un point. Qui remporte l'équipe sauvage?
Je crois que c'est très clair.
C'est Mathieu Charrier.
C'est très clair. Mathieu Charrier. 194e jour. journée de l'équipe est sauvage. On remercie chaudement Louis Chédid. Et on rappelle, votre nouvel album, Tout ce qu'on veut dans la vie, il est disponible cet album. Il est très réussi, mais on va vous retrouver
pouvez,
sur scène.
Évidemment, on vous retrouve sur scène. Donc la première date, on a dit, ça sera le 25 septembre à Forges-les-Eaux, mais j'en donne quelques-unes comme ça. Le 10 novembre à Saint-Raphaël, le 17 janvier à Nantes, le 29 avril à Bordeaux et surtout le 12 novembre et le 11 janvier à l'Olympia à Paris.
Le 12 novembre, c'est bien, c'est l'anniversaire de ma mère. Anniversaire. Par contre, le 13, c'est mon anniversaire, ça aurait été bien de prolonger. On va demander à l'Olympia de faire une date de plus à l'Olympia.
C'est pas mal, on le rajoutera. Allez.
Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Farah Kessri, Anne Le Gall, Mathieu Charrier, Axel de Tarlet et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage, revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe sauvage aérienne aujourd'hui avec Louis Chédid. Demain à vos côtés, la réalisatrice Lisa Azuelos. Très belle soirée à vous.